Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jouy, heureux de vous retrouver dans la vie de l'esprit pour la seconde partie de l'entretien que nous a accordé Philippe Guimand, physicien français, auteur d'une nouvelle théorie sur l'espace-temps, selon laquelle le futur pourrait influencer le présent et selon laquelle la conscience n'est pas le produit du cerveau. Cette dernière théorie n'est pas encore majoritaire, notamment dans les neurosciences, mais il semble pourtant que les choses bougent dans le microcosme scientifique français, comme nous l'annonce Philippe Guimand.
Oui, ça change, c'est en train de changer. Je suis en relation avec des collègues neuroscientifiques qui ont déjà quand même commencé à modifier complètement leur idée. Donc ils sont plutôt dans le doute et ils sont ouverts à cette idée que la conscience serait non locale et pas produite, en tout cas pas totalement produite par le cerveau. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Reprenez votre question, parce que je n'ai pas...
Oui, je disais que vous faites donc grand cas de ces phénomènes émergents, comme les sorties de corps et les expériences de mort imminente qui prouvent que la conscience peut exister, existe, avec d'ailleurs, c'est presque une omniscience qui parfois advient lors d'une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que c'est une conscience augmentée, si j'ose dire, hein.
Oui, ça, c'est ça qui est assez particulier, tout à fait parlant. C'est que lorsqu'on prive la conscience de son lien avec le cerveau, que la conscience se met à trouver la pleine expansion de son être. Donc, ça montre bien que, en fait, la conscience, en gros, elle a des capacités bien supérieures à celles qu'on ressent à l'intérieur de notre corps et que en fait elle est en quelque sorte piégée à l'intérieur du cerveau. Elle est un peu comme l'habitacle, le pilote d'un véhicule qui se retrouve piégé dans son habitacle. C'est-à-dire que nous avons une perception déformée de la réalité à l'intérieur d'un habitacle et ce n'est que lorsqu'on quitte l'habitacle parce qu'on y est obligé, hein, parce que cet habitacle, ce véhicule, il est en panne, où il ne fonctionne plus, que là, on a une vision de la réalité beaucoup plus grande, quoi. Ouais.
Alors ces phénomènes, donc EMI, OBE, sont évidemment des phénomènes assez rares, mais en revanche, vous faites grand cas des synchronicités. On a tous, plus ou moins un jour, été en butte à ce curieux phénomène de la synchronicité, qui est passionnant. Jung a théorisé à propos de la synchronicité, et vous-même, vous l'utilisez dans votre travail scientifique, parce que ce que vous nous dites, c'est que finalement, on parlait tout à l'heure du futur réalisé, c'est que quand on commence, si j'ose dire, un nouveau futur, ce futur nous parle à travers les synchronicités. Est-ce que vous pouvez nous développer ce sujet ?
Oui. Alors tout d'abord, moi j'ai découvert ce phénomène durant les 20 premières années de ma carrière où j'ai été amené petit à petit à faire de l'intelligence artificielle, où j'étais très créatif, hein, j'ai reçu plusieurs distinctions par rapport à mes innovations. Et je me suis rendu compte que finalement, lorsque je développais de nouvelles inventions, de nouveaux produits, par exemple un détecteur de feu de forêt, par exemple un appareil d'analyse des mouvements des yeux, ou des systèmes d'intelligence artificielle qui dans le domaine de la robotique, etc. Mon activité créative, mon activité était d'autant plus créative qu'elle était moins mentale. C'est-à-dire que ce n'est que lorsque je me déconnecte du mental, soit en allant faire une sieste, par exemple, une grande randonnée, et que j'essaye d'oublier un peu la pression mentale qui fait que je cherche à résoudre un problème. Et c'est dans des circonstances totalement inattendues que finalement je trouve la solution. Et à ce moment-là, j'ai une sensation de joie qui correspond à la satisfaction intuitive d'avoir trouvé et qui fait que ça y est, j'ai trouvé la solution. Et donc, si vous voulez, en fait, j'ai compris qu'on ne change pas son futur, qu'on ne trouve pas la solution aux problèmes qui vont donc changer les futurs. En utilisant son mental, on trouve la solution au problème en se connectant à quelque chose de beaucoup plus profond que le mental, hein, Le mental, c'est notre capacité à raisonner, c'est notre capacité à utiliser tout notre formatage scolaire, académique pour aller chercher les outils qui vont nous permettre de résoudre des problèmes. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, si on veut vraiment être créatif, c'est pas en allant puiser dans les solutions connues, hein, c'est en allant puiser dans l'inconnu, et ça, il faut aller chercher au fond de soi. Donc déjà, je me suis aperçu, et puis aussi, il y a aussi tous les hasards qui font que ben, vous trouvez aussi la solution au problème grâce aux rencontres que vous faites avec d'autres personnes, grâce à des hasards qui font que tout d'un coup, votre système se met à fonctionner parce que vous avez fait une mauvaise manip. Enfin bon, disons que c'est le hasard et l'intuition, donc plutôt la synchronicité et l'intuition, que vous arrivez à être créatif et à avancer, donc à modifier le futur. Donc ça m'a fait réfléchir. Et après, j'ai décidé de me livrer à des expériences pour voir si c'était vrai qu'en allant chercher au fond de soi l'information, en se déconditionnant, si c'était vrai qu'on pouvait changer son futur. Et là, je me suis livré à de véritables expériences entre guillemets, de dialogue avec l'ange, si vous voulez,
Oui.
qui ont fonctionné. Et j'ai été bluffé par ça. J'ai été époustouflé par cette capacité fantastique qu'on a de faire une sorte de magie, hein. Et c'est ce que je raconte dans mon premier livre, La Route du Temps. Et ensuite, après avoir témoigné de tout cela, j'ai reçu une quantité considérable de témoignages d'autres personnes qui m'ont confirmé que, effectivement, et puis de toute façon, ça rejoint là, effectivement, ça rejoint Jung, la synchronicité de Jung, mais ça rejoint les traditions ancestrales, ça rejoint même certaines religions qui nous disent, par exemple, aide-toi, le ciel t'aidera, etc. Donc c'est en allant chercher au fond de soi-même, en se déconnectant, en se déconditionnant de notre réalité quotidienne, qu'on est capable de capter un nouveau futur qui va, à ce moment-là, produire des synchronicités. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience de la nouveauté, par cela même, va modifier notre futur, et ça va se traduire par des hasards extraordinaires qui vont se présenter devant nous et qui vont nous conduire vers ce nouveau futur.
Ouais. C'est une sorte, finalement, c'est hasard extraordinaire, enfin, ce qui ressemble à des hasards extraordinaires. Hein. Je ne sais plus qui disait que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, mais c'est un peu les petits cailloux blancs du petit poucet seulement. C'est l'avenir qui les sème sur notre chemin, finalement. C'est un peu ça.
Oui, parce que en fait, tout le monde comprendra que notre futur actuel soit un futur qui soit quand même gouverné par la causalité, donc par le conditionnement, etc. Et que si on reste dans ce conditionnement, on ne pourra pas être sensible aux petits cailloux blancs. Et que ce n'est que lorsqu'on commence à s'ouvrir à une plus grande dimension de soi, d'existentiel, que dans ce cas-là, on peut commencer à détecter qu'il y a des cailloux blancs et que ces cailloux blancs viennent nous apporter une information. Et effectivement, si on se met à en tenir compte, on peut modifier son futur. Alors par contre, je voudrais signaler qu'il y a quand même là un grand risque de se tromper, hein. C'est-à-dire que les fausses synchronicités pullulent. Au départ, hein, lorsqu'on débute dans ce domaine-là et qu'on a envie de provoquer des synchronicités en se connectant à soi, ben on se trompe, hein, parce qu'on est toujours piégé par son mental et on va avoir des signes partout et on va se rendre compte qu'on est finalement sombré dans une illusion, hein. Et donc il faut faire attention à ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est accessible facilement. Ça demande véritablement un travail sur soi, de la discipline, de sortir du conditionnement, etc. C'est toute une pratique, hein. C'est toutes les pratiques spirituelles, d'ailleurs, toutes les pratiques
Méditative
voilà, que j'ai
et
connues.
autres, ouais. Alors, évidemment, tout ce dont là, on parle, la science académique s'en défie comme de la peste. Vous évoquez d'ailleurs dans votre livre Le grand virage de l'humanité, le scientisme qui règne en France. et vous fustigez les 10 commandements du matérialisme, parce qu'on en est encore, évidemment, à cette vision matérialiste de la vie et de l'histoire. Les 10 commandements, donc, c'est le déterminisme, le néo-créationnisme, le fatalisme, le matérialisme, l'objectivisme, le passéisme, le darwinisme, le réductionnisme et le scientisme. Et puis, le transhumanisme. Et là, j'aimerais qu'on parle évidemment du transhumanisme que certains comme Elon Musk appellent de leur vœu et qui est votre bête noire. Alors, selon vous, d'abord, vous allez peut-être nous rappeler ce qu'est le transhumanisme et quel danger fait-il courir à l'espèce humaine?
Alors, le transhumanisme, c'est l'idée que nous sommes des machines biologiques et que par conséquent, il est logique d'admettre que l'humain puisse être augmenté par de la technologie, puisque on ne fait que rajouter de la technologie, du machinisme à des êtres qui sont déjà des machines. Alors ça c'est faux. Et donc on peut comprendre que si on n'est pas des machines, ben on risque de tomber dans quelque chose de très très négatif. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas comprendre qu'on n'est pas des machines, ça revient à ne pas comprendre qu'on est déjà connecté. On est déjà connecté naturellement à plus grand que soi, on est déjà connecté à la nature, naturellement, mais par des moyens que la science n'a pas encore compris. Et le fait d'aller vers le transhumanisme, c'est-à-dire d'aller vers l'homme augmenté, par exemple, au moyen de capteurs qui vont améliorer nos capacités visuelles, et puis au moyen de tout un tas d'autres instruments qui vont peut-être même se loger plus tard dans notre cerveau, etc. Ça veut dire qu'on va petit à petit ne plus être connecté à soi, mais être connecté artificiellement à notre environnement. Hein, c'est un peu déjà ce qui se passe à travers l'utilisation du GPS, mais on va aller, mais le risque est beaucoup plus grave que ça. Donc le fait d'être connecté artificiellement à l'environnement, risque de nous emmener dans un monde où on n'arrivera plus à être connecté, naturellement, et l'humain finira par y perdre son âme. Et ça, c'est alors l'existence de l'âme, c'est quelque chose qui devient scientifique aujourd'hui, hein. Et le problème, c'est qu'on est resté dans une illusion qui vient du fait que, effectivement, il y a 40 ans, tout le monde pensait, dans notre éducation, d'ailleurs, l'école continue d'apprendre ses bêtises aux élèves, hein, donc que la nature est sans but, sans la moindre finalité, etc. On pensait que voilà tout le résultat, tout ce qui arrive est le résultat de la causalité, que la conscience est un produit du cerveau, que la réalité est indépendante de nos états de conscience, voilà, que l'évolution de la vie c'est dû à la sélection naturelle, donc on est des machines que la mémoire, les intuitions et les visions sont issues de notre cerveau, etc. Tout ça, ce sont des bêtises en fait. Mais le problème, c'est que on s'est aperçu seulement grâce au progrès de la science des dernières décennies, que tout ça c'était faux et qu'il fallait aller chercher une vision de la réalité beaucoup plus subtile. Le problème, c'est que ce système de croyances matérialistes est ce qui a forgé toute la puissance financière dans ce bas monde, hein. C'est ce qui a forgé l'idéologie des GAFAM, cette idéologie transhumaniste. C'est ce qui a forgé tous les pouvoirs financiers. C'est ce qui a forgé l'idéologie aussi de Big Pharma, qui consiste à dire que bon ben l'immunité naturelle, bon ben ça n'existe pas, il y a des virus maintenant qui sont trop dangereux et donc il faut remplacer ça par une immunité artificielle, d'où la vaccination, etc. Bon, voilà, on est en train de suivre des voies qui correspondent à des erreurs de conception terribles concernant notre réalité, et c'est ça qui est très dangereux. Voilà.
Alors, les gens pourraient se dire, oh, ben ça c'est encore de la science-fiction, mais non, c'est votre spécialité de débat, hein, l'intelligence artificielle. Vous avez même reçu des récompenses au CNRS, etc. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez décidé d'abandonner cet aspect de votre travail? Vous en avez perçu le danger?
Ben oui. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'ai moi-même créé une société développant des produits d'intelligence artificielle. J'ai été un client de Thales, de Saint-Gobain, d'Ifremer, de grands groupes, de Logitech, etc. Et que donc je m'apercevais que finalement, bon, je devenais un magicien sur commande qui finalement était orienté plutôt vers des systèmes de contrôle et de surveillance, alors que j'aurais aimé développer des choses beaucoup plus intéressantes. D'une part, d'autre part, en développant moi-même des cerveaux artificiels à base de neurones mathématiques, je me suis aperçu que, parce que bon, évidemment, je me suis passionné pour l'intelligence artificielle avec la question clé, est-ce que un jour l'intelligence artificielle pourrait produire la conscience? Et je vous avoue qu'il y a 20 ou 30 ans, j'étais encore dans cette idée-là. Et que donc, et je cherchais quels pourraient bien être des algorithmes qui pourraient produire la conscience. Enfin, j'étais dans cette naïveté, hein, donc, et puis petit à petit, en développant des systèmes intelligents, je me suis aperçu qu'il y avait un bug là, c'est-à-dire que finalement, le cerveau ne pouvait pas produire la mémoire. Aucun cerveau ne peut. Enfin, c'est-à-dire la mémoire ne peut pas être dans le cerveau. Si notre cerveau est fait de paquets de neurones, de réseaux de neurones, la mémoire ne peut pas se trouver dans le cerveau, il faut aller la chercher ailleurs. Donc déjà, ça a été une première compréhension des choses, enfin une première de premier doute. Et ensuite, je me suis rendu compte que dans physique de l'information, donc en allant beaucoup plus loin en profondeur dans mes développements, que l'information visuelle ne pouvait pas être produite par un cerveau. C'est en développant des cerveaux, hein, des cerveaux qui étaient capables de reconnaître mieux que l'œil humain certains objets. Hein. Donc j'avais à un moment donné de mon histoire, si on peut dire, il y a 20 ans, j'avais les meilleurs composants de vision artificielle du monde. Hein. J'étais reconnu pour ça. Et donc c'est là que je me suis rendu compte, enfin c'est pas tout de suite, hein, c'est plusieurs années après. En continuant de réfléchir sur les conséquences de tous ces développements, que je me suis rendu compte qu'un cerveau ne pouvait pas produire l'information visuelle. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à remettre en question l'idée que la conscience pouvait être produite par un cerveau, etc. Et puis après, comme j'ai découvert la synchronicité et que les phénomènes de synchronicité ne pouvaient pas s'expliquer si on ne désolidarisait pas la conscience du cerveau, ça m'a petit à petit amené sur ce chemin vers la spiritualité qui développe tout ça. Et la physique, les progrès de la physique n'ont fait que me conforter. Et à ce jour, j'ai écrit 4 livres qui donnent une vision du réel, à mon avis, qui est beaucoup plus cohérente, beaucoup plus subtile et beaucoup plus intelligente que tout ce qu'on peut nous apprendre à l'école sur le lien entre le cerveau et la conscience.
Ouais. Alors, votre dernier livre, Le Grand Virage de l'humanité, paru, je le rappelle, aux éditions Guy Trédaniel, vous l'avez écrit un peu parce que tout simplement, vous vous êtes dit que ce que nous imposent les gouvernements depuis le début de la crise du Covid nous conduit vers la catastrophe. Je rappelle que pour vous, deux futurs sont entrés en concurrence hein, à partir du Covid, le futur qui nous attire vers le transhumanisme, et puisque vous avez baptisé très joliment le futé lumineux qui veut nous conduire au nouveau paradigme, c'est-à-dire au noce de la science et de la spiritualité, mais pour l'instant, il y a quand même un danger que nous fait courir, que nous font courir les gouvernements. Pourquoi en fait?
Alors, concernant ce fameux futur transhumaniste, il a été créé, puisque le futur est créé par nos pensées, porté par la vibration de nos émotions, hein, il a été créé depuis des siècles. Puisque nous sommes depuis des siècles, depuis le 17e siècle, le 18e surtout avec le machinisme ensuite, piégés dans une vision matérialiste de la réalité qui réduit notre monde à 4 dimensions. Et il était normal qu'avec une vision machiniste du monde, où on pense qu'on est des machines, ben on finisse par se construire un futur transhumaniste. D'accord? Mais depuis quelques décennies, cette fois-ci, donc depuis beaucoup moins longtemps, nous sommes en train de réaliser que c'est faux. Et donc, nous sommes en train de sortir petit à petit dans le futur du piège. Et moi, ce que je dis dans ce livre, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce nouveau futur est en train de prendre forme, et c'est lui qui a produit finalement l'arrivée du virus qui nous a conduit au confinement, hein, et ce hasard qui a fait que le virus a émergé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelques petits complots par-ci, par-là qui correspondent à l'instrumentalisation qu'on voit très bien de la crise par les puissances financières. Mais en tout cas, on peut quand même interpréter cette arrivée du virus comme quelque chose de positif dans la mesure où il y a eu un coup d'arrêt porté à la logique qui nous emmenait vers le transhumanisme. Et donc, et j'interprète l'accélération actuelle de cette volonté de nous y conduire, hein, de nous conduire à une société de contrôle numérique, comme étant le signe de la résistance de cet ancien futur, de ce futur, d'accord? C'est parce que ce futur résiste, il veut absolument survivre, qu'il essaye de nous emmener de manière accélérée à son avènement. Et donc, j'interprète toutes les défaillances et toute cette politique dictatoriale, totalitaire que l'on vit en ce moment autour d'un virus qui finalement est peau de chagrin, comme étant le signe d'un futur en voie de disparition, et donc finalement comme étant un bon signe, quoi. Bon, bien sûr, on va traverser quand même encore quelques mois ou années de pression pour aller dans ce sens-là, mais il faut l'interpréter positivement comme une sorte d'épreuve qui est infligée à l'humanité pour qu'elle finisse par dire non à ça, hein. Ne pas oublier qu'une maladie, quand on développe une maladie, la fièvre correspondant à une maladie, c'est le déclenchement d'un système immunitaire qui consiste à dire non à un ancien futur. Et donc je l'interprète comme ça, c'est-à-dire l'humanité est tombée malade du fait qu'elle allait dans le mur. Et donc le fait qu'elle soit tombée malade et qu'elle résiste aujourd'hui à cette société de contrôle numérique est quelque chose de positif qui est destiné à nous faire aller dans la bonne direction, du futaie lumineux qui correspond à un avenir dans lequel l'homme aura effectivement compris qu'il n'est pas une machine biologique, qu'il a une âme et qu'il a des progrès absolument encore extraordinaires à accomplir et que la possibilité d'échapper au dérèglement climatique, elle existe. Simplement, il faut sortir de cette logique de surconsommation. Et donc, ben justement, nous sommes invités aujourd'hui à en sortir.
Oui.
Voilà. Sinon, on va dans le mur avec cette société de contrôle numérique qui se profile à l'horizon.
Oui, parce que ce que vous dites, c'est que finalement, par exemple, le passeport sanitaire, etc., c'est une marche supplémentaire en direction du transhumanisme, c'est ça?
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on a vécu depuis début 2020, depuis le confinement, c'est un ensemble de petites marches d'escalier qui nous emmènent petit à petit vers le transhumanisme. Alors, ça a été au départ le port obligatoire du masque à l'extérieur, ce qui est complètement irrationnel. Ensuite, tout ça, bon, ben, ça nous a préparé à accepter la vaccination. Ensuite, ça a été le fait de rendre la vaccination obligatoire. Moi, quand je disais ça il y a un an, on ne me croyait pas, on me prenait pour un complotiste. Pourquoi rendre la vaccination obligatoire de manière à ce que tout le monde soit ensuite obligé de porter un passe sanitaire? Pourquoi obliger tout le monde à porter un passe sanitaire? Parce qu'évidemment, ce passe sanitaire, il va se transformer en l'obligation de porter sur soi en permanence un identifiant numérique qui va être détecté automatiquement par les objets connectés et la 5G, etc., etc. Et tout ça nous amène petit à petit à ce futur où on finit tous par devenir pucés ou tracés numériquement, hein, ce qui est d'un grand intérêt pour la haute finance, puisque après on va finir par payer avec ça, hein, et on va ainsi déployer le très grand marché des objets connectés qui consiste à interfacer l'homme avec son environnement. Il va y avoir des applications intéressantes, hein, je le nie pas. Le fait que en permanence une intelligence artificielle puisse savoir où vous vous trouvez, puisse analyser votre comportement, va faire que on va recevoir de l'aide pour trouver tout ce qu'on cherche, sauf que ce sera complètement artificiel, hein. Et le fait d'avoir cet identifiant numérique en permanence sur soi, on va nous obliger à payer avec ça. Et donc après, notre vie sera entièrement contrôlée de A à Z par des intelligences artificielles. Donc c'est ça qu'il
C'est
faut
assez
éviter.
sinistre.
Ben oui, c'est assez sinistre. Et c'est pas pas avec des garde-fous techniques qu'on va empêcher. Aujourd'hui, la CNIL, elle n'a même pas été capable d'empêcher le passeport sanitaire. Alors évidemment, pour l'instant, le passeport sanitaire ne nous identifie pas. mais ça va venir. Ce n'est pas des garde-fous techniques qui vont nous empêcher d'être tracés. Il faut des garde-fous éthiques. Il faut que l'humain se ressaisisse et comprenne que éthiquement, on ne peut pas accepter qu'un homme soit tracé numériquement avec des informations qui sont ensuite analysées par une intelligence artificielle. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Pas dans une société où on n'a pas compris que l'homme n'est pas une machine et voilà, et qu'on n'a pas encore compris l'existence de l'âme. C'est pas possible d'accepter ça.
Alors, je me hâte d'ajouter que vous n'êtes pas trop favorable, malgré tout, aux manifestations. Vous êtes plutôt dans la construction. Vous souhaitez construire, finalement, une société un peu alternative, écologique, solidaire et résiliente.
Oui, les trois maîtres mots, c'est autonomie, résilience et solidarité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer contribuer au futaie lumineux, de signaler que, attention, là, on va dans le mur avec le contrôle numérique, et de développer les solutions alternatives à tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, c'est une chance qu'on nous empêche finalement d'aller au restaurant, parce que comme ça, on va pouvoir développer des restaurants résilients, des restaurants furtifs, etc. Enfin voilà, en fait, on nous oblige à sortir du conditionnement. C'est pas génial, c'est fantastique. On nous oblige à sortir de quelque chose qui, de toute façon, était illusoire. Et donc, ça va booster le développement de ce que j'appelle le futé lumineux, c'est-à-dire le développement d'une nouvelle société avec de nouveaux rapports humains, avec un humain qui va se rapprocher de la nature, qui va acquérir de nouvelles connaissances sur la réalité, qui va découvrir le pouvoir fabuleux de la conscience. Et on va développer de nouvelles monnaies, on va développer de nouvelles façons de vivre ensemble qui vont rendre la vie beaucoup plus intéressante qu'auparavant.
Et c'est sur cette promesse magnifique que nous allons clore cette émission. Je rappelle le titre du livre de Philippe Guillemant, Le Grand Virage de l'Humanité, publié chez Guy Trédanial. Il s'agit de la deuxième édition. La première édition a été avalée par les lecteurs en un temps record. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel. On se retrouve le mois prochain dans la Ville d'Esprit. Et là, il sera encore question de spiritualité.